il est 20h. Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète, Giscard 50,9.
François Mitterrand est élu président de la République.
Cinquième président de la Ve République, Jacques Chirac, 50%.
Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix.
C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix.
Moi, président de la République, 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 moi, président de la République.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce dernier numéro de Tous Politiques, l'émission politique de Transistor. Et ce soir, je suis en compagnie de Marie, de Rémi, de Pierre et de Maëlys. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir Mathias.
Bonsoir Mathias.
Tout le monde le sait, Emmanuel Macron a été élu président de la République et a nommé hier son premier ministre Édouard Philippe. Wouh ! Issu des rangs des Républicains, la recomposition politique est finalement en marche. Non, aha. Personne ne relève mon jeu de mots. Merci.
C'est un rapport avec un parti politique ou quelque chose ?
Il n'y a pas de parti politique, il n'y a que des mouvements.
Il n'y a plus de parti, nous sommes au-dessus des partis.
Nous sommes au-dessus des partis.
Au niveau de l'abdomen.
C'est ça. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marie. Et Marie, de quoi vas-tu nous parler ce soir ?
Eh bien, je vais vous parler de Macron, malheureusement.
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Eh bien, ça y est, il est investi. Il va falloir s'habituer à le dire. Le président Macron, le président Macron, pendant 5 ans. Macron, vous l'aurez remarqué, Macron, c'est un genre de centriste droit imprévisible, partiellement imprévisible. Un centriste droit, droit dans ses bottes, un centriste de droite qui a fait carrière dans le parti de Léon Blum, mais c'est bien fini tout ça. Un centriste imprévisible donc, qui met des siècles à pondre un programme, qui ne s'embarrassera sans doute pas de le tenir. Un centriste imprévisible qui cherche si fort une première ministre compétente avec un peu d'expérience mais une nouvelle tête, qu'il finit par trouver Édouard Philippe, fausse femme à barbe mais vrai juppéiste. Un mec engagé, cet Édouard Philippe. Gilles Boyer dit de lui qu'il est de droite sur les sujets économiques mais modéré sur les sujets sociétaux. Waouh, la foule est en délire. De Gaulle disait que le président devait être au-dessus des partis. Macron, c'est le mec qui arrive, se réclame de De Gaulle parce que tout le monde se réclame de De Gaulle, lit de travers et entreprend de dynamiter le binôme des partis, les socialistes et les républicains, pour ne pas les nommer. Ça, c'est plutôt réussi. Le PS est démoli comme jamais et la nomination d'Édouard Philippe sert à bien cliver la famille politique, comme dirait Barouin, le parrain des Républicains. Pour son gouvernement, pour sa majorité parlementaire, Macron veut aussi des nouvelles bobines. Des personnalités issues de la société civile, des gens comme vous et moi, pas des énarques bureaucrato-technocratiques, vous voyez ? Enfin, des gens normaux comme vous et moi, c'est vite dit. Qui trouvons-nous parmi les candidats et candidates investis par La République En Marche ? Un jeune économiste, une capitaine de handball, une productrice de cinéma, un lobbyiste de droite, une torera, des juges et des avocats, des patrons, des étudiants, un agriculteur qui fait de la politique, un ouvrier retraité parce que quand même, des professions libérales. Bref, une France qui travaille, qui n'a pas trop de mal à trouver du travail, ni à joindre les deux bouts, et une France qui gagne bien sa vie. Après tout, bande de gauchos, rappelez-vous qu'il y a un an pour Monsieur le Président, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler, et ça c'était avant Fillon. Tenez par exemple, un candidat En Marche que nous connaissons un petit peu à l'ENS. Vous prenez un costard et vous mettez une araignée dessus, ça vous donne Cédric Villani. Ou le mec qui est en train de se justifier partout où on veut bien l'entendre de sa candidature sous la bannière Macron. Et une tribune sur Figaro Vox, et une interview dans Science et Avenir, et des articles partout dans Libé et Télérama, et une dépêche sur BFM TV et France Info. Il n'y a guère d'avantage d'être mathématicien dans une campagne, nous déclare l'individu. Ah bon, aucun avantage ? C'est-à-dire que tu n'as aucun privilège quand ton métier de chercheur, ton prestige scientifique et ton salaire confortable te laissent du temps pour faire de la politique ? Tu n'as aucun avantage social quand ton capital culturel et économique te font te sentir suffisamment légitime pour prendre la parole et briguer un mandat ? Tu ne fais jamais valoir tes expériences à des postes à responsabilité, jamais ! Mais voyons, Cédric, il faut être raisonnable. Mais raisonnable, En Marche et son président ne le seront sans doute pas. Parce que, je l'ai dit, Macron n'est que partiellement imprévisible. Il veut dynamiter, casser les codes, sortir du système, tout niquer. Niquer quoi ? Certainement pas le conservatisme économique, respirer les enfants, le capitalisme est sauf, et l'esprit d'entreprise aussi. L'esprit d'entreprise. Il y en a plein, le programme économique de Macron. Un programme qui est carrément un monde de pensée, oui. Un monde où les patrons très riches sont les créateurs de profits, des patrons responsables qui sont là pour créer des emplois, bien sûr. Des patrons qui ont l'esprit d'entreprise et qui savent prendre des risques. Oui ? Et bien plutôt des patrons qui seraient des hommes blancs issus de classes sociales aisées, qui ont tout le capital économique et le temps devant eux pour monter leur affaire, gagner de l'argent et rembourser leurs créanciers ? Et dans ce monde des patrons qu'il faut absolument aider et soutenir. On aura toujours en face les autres, les employés, les ouvriers. Vous savez comment on les appelle ? Les charges de l'entreprise. À vrai dire, ce ne sont même plus des gens. Ce sont à la fois des collaborateurs et des coûts salariaux. En 2017, donc, tout ira comme avant. L'État ne sera pas social. Marine Le Pen sera très fière d'avoir rebaptisé le système UMPS en LREM. Hein, après tout, elle n'a rien de mieux à foutre après ses dernières performances médiatiques. En 2017, on gouvernera par ordonnance, parce que ça va plus vite, on continuera à faire du hollandisme, peut-être en un peu moins sécuritaire, qui sait, avec un sidekick de droite pour bien garder le cap économique et social qu'on a pris depuis plusieurs années. La République dit qu'elle est en marche, mais vous savez, au fond, le vrai nom d'En Marche, celui qu'on ne nous a pas dit, c'était sans doute quelque chose comme « En permanence ».
Merci Marie pour ce beau billet d'humeur, ce dernier de la saison de Tous Politiques. Mais l'équité du temps de parole est ce qu'elle est. Et,
la parité aussi.
La parité du temps de parole, la parité des genres, la parité de tout le monde, fait que nous laissons la parole dans Tous Politiques, puisque nous sommes tous politiques. Et pour ce faire, je laisse la parole à Pierre pour son billet.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors aujourd'hui, je suis d'humeur un peu mitigée. Hein. J'ai pu assister au-dessous d'une réunion d'un comité En Marche. J'ai discuté de cette horrible présidentielle avec ma sœur. J'ai suivi sans trop m'y attacher l'annonce du Premier ministre. J'ai rigolé doucement à l'hypocrisie d'un Mélenchon sûr de lui. Je me suis retrouvé à jubiler devant la conférence entre Merkel et Macron sur notre avenir à 500 millions. J'ai pu discuter avec mon frère de l'immunité parlementaire et de la professionnalisation de la politique. En somme, j'ai beaucoup, beaucoup parlé de politique dans tous les sens, croisé plein de regards, réfléchi à tout ce que j'ai pu vous dire de bêtises, de recherches, de convictions personnelles. Alors voilà, c'est le dernier numéro de l'année, c'est ma dernière chronique pour vous parler d'un phénomène politique récent que j'interprète avec mon biais politique, social, culturel, tout ce que vous pouvez balancer comme terme de sociologie. J'ai aussi eu le petit pincement des nombreuses chroniques acerbes de mes camarades qui déversaient leur consternation, leur méfiance, voire même leur simple détestation de Macron,
pauvre
candidat
petit,
que j'ai soutenu depuis
Pierre.
Les tout débuts de son mouvement, comme l'ont si bien fait remarquer avec ou sans gants de velours mes petits camarades chroniqueurs. On arrête la rétrospection et l'introspection. Hein, de quel sujet parler aujourd'hui ? Tant de sujets à évoquer dans une actualité très récente. Mais puisque c'est la dernière chronique, on a envie d'en faire une bien, une franchement drôle, une franchement violente, une qui marque les esprits, qui va gagner à coup sûr la bataille des idées. Et personnellement, je sèche totalement. C'est pas facile du tout, en vrai. Pour preuve, ce petit reportage fait main. 15h. Bureau de Pierre, appartement B38C. La nouvelle n'est pas encore arrivée, Pierre est seul à son bureau, surfant sur internet de page web d'info en page Wikipédia. Soudain, le portable vibre. C'est un message et pas n'importe lequel. L'information est là. Il va y avoir un numéro de Tous Politiques cette semaine. Sans plus attendre, Pierre, chroniqueur maintenant régulier, ouvre son logiciel de traitement de texte dont nous ne divulguerons pas le nom pour des raisons de secret commercial. En vrai, je crois bien que c'est un métier, vous savez. On s'y essaye d'abord parce qu'une connaissance vous invite. Je m'en rappelle, c'était Mathias un soir qui m'avait demandé si je pouvais venir. On se fait connaître et on finit par devenir un régulier. Pierre, on est aujourd'hui à sa 9e chronique. intitulé maintenant « L'humeur de Pierre dans Tous Politiques ». Alors en vrai, j'en suis à ma 10e du coup, avec celle-là. C'est marrant, hein, ça la rend doublement spéciale. Et puis oui, le titre est venu avec le concept de l'émission. On a cherché plusieurs titres comme « Pi, errement politique », mais Mathias, on a jugé que ça faisait un peu trop « Pierre, ment ». En même temps, j'irai pas jusqu'à dire que je vous délivre la vérité absolue tel un Chuck Norris en costard sur les marches du Palais Bourbon. Je pense pas non plus vous mentir beaucoup, quoi. Il s'avère que Pierre n'est pas à l'abri d'une affirmation fausse, pour chercher à contrer l'argumentaire du FN. Oui, bon, c'était une erreur, une simple erreur d'unité. Enfin, je me suis gouré entre millions et milliards en essayant de décortiquer le budget de l'Union Européenne et la contribution de la France. Mais mon point est toujours valide, hein. Le FN a détourné des millions de notre argent sans se faire gauler. Fondé sur des recherches intensives entre lemonde.fr et Wikipédia, Pierre cherche à la fois à apprendre des informations et à faire rire, parfois avec succès. Mais qu'en est-il du processus créatif ? C'est relativement simple en fait, hein. On me dit que je dois faire une chronique, du coup je l'écris. Pour le sujet, c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Des fois ça me vient en avance parce que j'ai eu une discussion un peu particulière et parce que ça reste un sujet que je trouve relativement général. Par exemple, là j'aurais pu faire un numéro sur la professionnalisation de la politique ou simplement sur Mélenchon et ses contradictions. Mais j'essaye d'éviter des sujets qui me forcent à prendre une position politique nette. J'essaye de monter en généralité, même si bien sûr je donne mon avis, hein. Ça reste que c'est un avis sur le système, pas les personnes dedans, enfin j'espère, et pas les idées qu'ils véhiculent non plus, parce que bon, je m'en prends déjà bien assez avec l'humeur de Rémi, les attaques de Marie ou le déterminisme sociologique de Maëlys. En vrai, il n'y a que Mathias qui me laisse tranquille, plus
et
ou moins.
Encore.
Hein. Mais j'essaye de ne pas ressasser cette première chronique catastrophique et l'erreur d'avoir parlé d'un courant politique. Après tout, nous sommes ici à l'ENS et je tiens encore à mon intégrité physique. Et puis, c'est pas ça la politique, s'écharper pour des conneries qui de toute manière nous dépassent. Parce que, bon sang, où est la politique dans ce que font nos politiciens ? À croire qu'il n'y a que les honnêtes gens qui savent faire de la politique et les malhonnêtes qui en font. La chronique rédigée, complète, finie, Pierre se dirige vers la salle informatique pour imprimer son script ou amène son ordinateur, par souci d'écologie bien sûr. Il se dirige vers le studio, prêt à passer en direct. Et c'est alors, après une introduction et une première chronique, qu'il amuse et instruit nos auditeurs. Alors voilà, je viens de vous faire entrer dans les coulisses de notre émission, hein, c'est ce qui est toujours préférable, à essayer de décortiquer la fonction de Premier ministre en France et dans le monde, à faire une petite recension des revirements de Mélenchon, à faire une comparaison entre la crise du Congo de 60 et le règlement de compte du FN, ou encore à faire un réquisitoire contre les derniers du MoDem qui s'imaginent si là quand en fait ils ne sont que des Marius. Mais croyez-moi, hein, j'ai pas fini de faire mon vieux con, parce que vu comme la politique est partie de nos jours, j'ai encore plein de belles conneries à partager avec vous.
Merci Pierre pour nous avoir fait entrer dans la fabrique d'une chronique pour Tous Politiques. Je suis sûr que tous nos auditeurs apprécient.
C'est nettement mieux fait que quand c'est moi qui écris mes chroniques. Hein. Le type est super sérieux.
Et oui, c'est à ça qu'on reconnaît un vrai chroniqueur, Rémi.
Chroniqueur, oui. Ouais, ouais.
Et tout de suite, après être...
Un régulier.
Après être allé dans la fabrique d'une chronique, allons dans la fabrique de notre société, de notre chère société française, avec Maëlys. Bonsoir Maëlys.
Bonjour Mathias. Alors moi aujourd'hui...
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors madame Barr, la parole est à vous.
Ouais, moi ça fait 10 chroniques et toujours pas... foutu d'attendre le jingle avant de commencer. Donc, alors moi aujourd'hui, ça va être un court billet politique avec un peu de sociologie, un petit peu. Bon, vous avez tous soupé d'Emmanuel Macron depuis ces deux dernières semaines et on n'ose même pas imaginer les prochaines années. Mais là, entre Macron en Jeep sur les Champs-Élysées, Macron le beau gosse, Macron l'économiste, Macron l'entrepreneur, Macron le philosophe, on a un curieux mélange des genres. Et personnellement, je n'ai jamais vu une telle mania politique autour d'une seule personne et ça m'interroge pas mal. Donc des personnes habituellement sensées et critiques qui deviennent les pires que les groupies des Beatles quand on leur sort, la gauche en même temps droite, libérale, en même temps sociale, ne tiquent même pas. Même les journaux qui se voulaient avant neutres, objectifs et déontologiquement journalistes se changent désormais en presse orientée. Bon, je parle bien sûr du Monde qui est devenu à la République En Marche que la Pravda était au parti communiste soviétique. Donc là, je ne sais pas vous, mais moi, je vois remonter un chef d'État sur un jeep, trompette et gendarme et la foule de badauds qui l'acclament. Bref, la grosse mise en scène du pouvoir et de la domination étatique aussi subtile qu'un film de Ridley Scott, j'ai envie de ressortir Max Weber, père de la sociologie allemande et premier grand théoricien de la domination, qui est arrivé bien avant Bourdieu, en fait, qui a pas mal pompé ses concepts.
Bon, là, je fais souvent Bourdieu avec pas mal de choses.
Voilà. Bon, là, je vais faire du Weber à la grosse louche, mais c'est juste pour donner des éléments d'analyse. Donc, en gros, Weber a pensé la domination à partir de ses manifestations historiques sur tous les continents du monde et en a sorti une typologie dont je vais vous résumer sommairement le premier niveau un peu élémentaire et qui peut servir à penser le cas Macron ces dernières semaines. Donc le premier type de domination dont il parle est la domination rationnelle légale. Donc c'est celle qui repose sur la légitimité des règles impersonnelles décidées rationnellement et conformes au droit dans une société. C'est la loi, c'est le droit, etc. Donc c'est la domination du président de la République choisie par le peuple et qui répond à la Constitution. C'est aussi celle des hauts fonctionnaires et de l'administration. Bon, le pouvoir du président Macron repose en grande partie sur ce ressort. On l'a choisi, il a des droits et des devoirs officiellement délimités. Le second type de domination que distingue Weber, c'est la domination traditionnelle, celle qui repose sur la tradition, donc on fait comme ça depuis belle lurette, l'habitude ou l'héritage. Bon, Macron, énarque, science piste, un pédigré classique pour un président censé prouver ses compétences, et avec tout le décorum d'une fonction soi-disant sacrée qui va avec, donc le char sur les champs, blablabla. Donc là, on a un peu traditionnel, on sort un peu du rationnel, n'est-ce pas, hein, on aurait dit que c'était la reine d'Angleterre et dimanche dernier et que c'était Stéphane Bern qui commentait à la télévision.
C'était Stéphane Bern qui commentait à la télévision.
Ah ouais ?
Sur France 2, oui.
Ah ben j'ai pas regardé les... D'accord. Bon ben d'accord. Tout est dit, voilà.
Avec les belles explications de pourquoi on tire 21 coups de canon.
Oh là là, voilà, bref.
Parce qu'en fait, 21, c'était le nombre de coups de canon qu'on tirait quand il y avait quand la famille royale accouchait d'une fille. Et on en tirait 121 quand c'est un homme, un garçon.
Y a-t-il une interprétation genrée à faire de possible ?
Peut-être.
Est-ce que si ça avait été Marine Le Pen, on aurait eu 121 coups de canon ? Je ne sais pas. Bref, enfin, dernier type de domination.
Sur la foule, oui, surtout.
La domination charismatique. Et c'est là que Macron tranche avec ses prédécesseurs parce que visiblement, les gens le trouvent plus charismatique que les autres. Et vous, est-ce que vous trouvez que Macron est charismatique ?
Oui, c'est sûr, surtout avec son feu sur la langue.
Et moi, je n'entends pas.
Oui,
ce non,
ça, ça on m'en parle aussi, mais je
non,
ne.
Non, ça, je pense que
pas.
C'est un mythe.
Ça dépend. Des fois, je pense qu'il a travaillé dessus parce qu'au début, quand il commençait ses meetings, en novembre, octobre, il l'avait vraiment. Hein, ça s'entendait. C'était d'accord. À mourir de rire.
Alors moi, je pense pas qu'il soit charismatique. Je pense que les gens le trouvent beau gosse et que la beau-gossitude tient lieu de charisme dans notre société.
Ben après, la comparaison est facile. Hein.
Surtout ma grand-mère, nous dit la régie. Ouais. On parle pas assez du charisme des blattes, je trouve.
Donc bon, effectivement, Macron est quand même plus charismatique que ses prédécesseurs et ça cadre pas mal avec des éléments évoqués par Max Weber, en fait. Bon, dans son parti, il y a lui, EM, il y a les autres, tout le monde qui le suit et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Pas comme ailleurs, coucou le Parti Socialiste. Et Benoît Hamon. Bref, on suit l'homme et le projet, mais pas la fonction ni le programme qui bouffe un peu à tous les râteliers. Macron a bouleversé un peu l'ordre établi en accédant au pouvoir dans un contexte troublé. Le FN est à nos portes, panique, panique. Et seul lui pouvait nous sauver de Marine Le Pen. Enfin, ce charisme est menacé d'instabilité. Donc ça, c'est un élément que met en évidence Weber, le charisme. La domination charismatique est instable. Donc en clair, pour succéder à Macron, il n'y a personne. Il faudra bien sûr routiniser le charisme de Macron au moyen d'autres attributs pour le transmettre à ses successeurs. Donc regardez ce que le général de Gaulle a fait avec la Ve République. Bon, visiblement, Macron semble avoir un peu de ces trois types de charisme, mais surtout du troisième charisme, ce qui expliquerait en fait l'ambiance actuelle depuis une semaine, où on a un petit peu de mystification ou d'enfumage à l'encens de sa personne. Donc personnellement, ça me donne tour à tour envie de rire ou la nausée, tellement cela dépasse l'entendement. Donc on a eu la légende dit que Macron, ce visionnaire, cet ambitieux, avait prédit qu'il serait président de la République à Alain Minc lorsqu'il a intégré l'inspection des finances. Voilà, premier élément. Son histoire d'amour fulgurante avec Brigitte façon Roméo et Juliette dans deux milieux sociaux interdits, blablabla, des générations différentes, etc. Donc c'est marrant. François Hollande et Valérie Trierweiler, c'était beaucoup moins glamour à l'époque. On a eu la longue marche jusqu'au micro pour bien marquer la personnalisation du pouvoir, etc. Bref, et on a enfin eu Le Monde et son cortège de journalistes chien de garde de Macron. Bon, je passe avant enfin, je passe sur tout l'avant de la campagne et l'après-campagne. Donc, je vous renvoie ici aux excellents articles d'Acrimed sur le sujet. Et sur l'édito scandaleux du 10 mai intitulé « L'étrange procès en légitimité fait à Emmanuel Macron », dans lequel Le Monde accuse notamment, je cite, « les procureurs de la France insoumise et les sans-culottes autoproclamés qui n'ont pas attendu 24 heures pour descendre dans la rue et décréter la guerre sociale ». Je cite, ce qui pour Le Monde représente un déni de démocratie, la moindre des corruptions démocratiques voulant qu'on attende qu'il soit bien installé pour commencer à le critiquer. Donc voilà, ils oublient un peu que le droit de manifester son opposition à un président de la République est un droit fondamental garanti à tout citoyen tout jour de l'année, même si c'est le jour d'élection du président, et que Macron a été élu sur son programme et que rien n'empêche les gens qui ne sont pas d'accord de le dire. Hop hop, c'est Macron, exit les règles les plus fondamentales de la démocratie, bref. Le déni de démocratie, c'est eux. Et que leur Macron-mania qui devient dangereuse. Donc, dernier point pour conclure cette chronique, je ne résiste pas à vous lire le début d'un article du Monde consacré à, je cite, la philosophie du macronisme. Parce que oui, quand c'est Macron, l'idéologie propre à la politique devient de la philosophie. Tiens, encore un enfumage à coup d'encensoir. L'argument d'autorité se nommant ici Paul Ricoeur. Donc attention, sortez la brosse et le cirage. Donc je commence à vous lire les premières lignes de l'article. Mais qui est-il ? Ricoeur ou Rothschild ? L'héritier de Rocard ou une rockstar ? Le président Nouveau Monde ou celui de la fin de l'histoire ? Est-il la figurine choyée de l'élite déterritorialisée ou la figure réconciliatrice d'une France fracturée ? L'homme de la troisième voie ou la tête de pont du capitalisme financier ? Depuis le sacre du Louvre le 7 mai, la France se demande de quelle façon Emmanuel Macron relie sa pensée et son action. Ouais, moi aussi, je réfléchis à quand je pense à comment je vais agir, etc. Voilà. Depuis sa victoire éclair, le monde s'interroge sur la manière dont cette start-up politique articule le dire et le faire. De quelle manière ce jeune monarque républicain aux allures de chérubin conjugue sa formation philosophique et sa pratique politique. C'est beau. Hein. La réponse est sans doute dans ce « et en même temps » que le nouveau président prononce si souvent. Car Emmanuel Macron se présente à la fois comme de gauche et de droite, social et libéral, soucieux de conjuguer le roman national et l'histoire globale, le sacre de Reims et la fête de la Fédération. Pierre Nora et Patrick Boucheron, la mémoire et l'oubli, la révolution et la monarchie. Ce n'est pas le « ou bien kierkegaardien », mais le « et ricœurien », cette façon de penser ensemble des choses hétérogènes qui le caractérise. Donc là, le journaliste interroge... Un prof de philo. Vouloir par exemple en même temps la libération du travail et la protection des plus précaires, cette manière d'introduire une tension soutenable entre deux énoncés apparemment incompatibles est vraiment très ricœurienne. Explique Olivier Abel, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Bon, je m'arrête là parce que le reste du torchon était payant et réservé aux abonnés, donc j'ai pas voulu continuer. Voilà, j'aime beaucoup les philosophes, je n'ai rien contre eux, mais voir Ricoeur invoqué de cette manière pour justifier le libéralisme et un projet purement politique me semble un peu choquant. Et pour finir, si vous voulez survivre aux 5 prochaines années, désabonnez-vous du Monde si ce n'est pas déjà fait. Gardez Ricoeur de côté pour la littérature, la phénoménologie, l'herméneutique et l'éthique, mais éloignez-nous surtout de la politique et surtout ressortez ce cher Max Weber, notre plus fidèle ami depuis un siècle quand il s'agit de décortiquer la politique. Voilà.
Merci Maëlys, au risque de te décevoir, ce n'est pas 3 prochaines années, mais 5.
Ah pardon, 5 prochaines années, j'avais marqué 5. Il y a eu 3.
Alors c'est drôle ça, oui, Olivier Abel, je l'ai reçu l'autre jour en séminaire, il avait l'air beaucoup plus sympa que ce qu'il écrit dans les colonnes du Monde.
Bon, après, bon, c'est une petite citation, c'est pas ce qu'il a dit avant ni après. Bref, et nous avançons, nous sommes nous aussi en marche dans le temps et en marche dans l'émission.
Stop.
Oh, ça va,
c'est pas parce que c'est la dernière que tu peux te permettre ce genre de truc.
C'est bien, j'aime bien être recadré par Rémi de temps en temps.
Parce que c'est ton régulier.
C'est mon régulier. Et comme d'habitude, j'ai quelque chose à vous dire.
Je suis scandalisé de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors, vous le savez, Emmanuel Macron président, on en a longuement parlé, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que son gouvernement tarde à venir.
Oui, d'ailleurs, ça a foutu en l'air toute ta chronique,
et
Mathias.
Ça a foutu en l'air...
Et la mienne aussi. Voilà.
Annoncé d'abord en cette fin de journée, il ne sera finalement annoncé que demain à 15h. Le temps de vérifier que toutes les déclarations de patrimoine des heureux élus sont bien en règle en compagnie de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Avec ça, il ne manquerait plus qu'un ministre ait un compte en Suisse ou oublie de payer ses impôts. Ou Condé, par exemple, un premier ministre épinglé pour avoir sous-estimé son patrimoine. Oups, c'est déjà le cas. Bref, j'ai décidé d'annoncer mon propre gouvernement. Celui dont tout le monde rêve, ou peut-être celui qui hante vos pires cauchemars. Vous allez voir, parité exacte, des gens de la société civile comme on les aime, vous allez adorer. Donc déjà, bon, Édouard Philippe, on ne peut pas le bouger là pour le moment, il est déjà nommé. Député-maire du Havre, cumulard de son état, grand défenseur du cumul des mandats, très peu actif à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il est le candidat idéal pour le renouvellement et la moralisation de la vie politique française, n'est-ce pas ? Au ministère des Affaires étrangères et des Outre-mer, Nathalie Kosciusko-Morizet. Car après ces moments de grâce dans le métro parisien, il faut bien qu'elle goûte à d'autres transports. Et en plus, elle sera loin, loin de nous, très loin. Ah, on vient de m'annoncer que Emmanuel Macron vient de s'excuser pour avoir mis les Outre-mer dans le même ministère que les Affaires étrangères. Et oui, il sait que les Dom-Tom ne sont pas un pays étranger, mais bon, vous comprenez, c'est loin, hein, et ça fera des économies de transport. Ministère de la Défense et, en même temps, de l'attaque. Serge Dassault.
Ah bah oui.
Qui
bah
pourra refourguer encore plus facilement ses rafales dont personne ne veut à part la France. Ministère de la Justice, garde des sceaux et des pelles. Jean-Vincent Placé, puisqu'à force de se prendre des râteaux, ça y est, il a réussi à avoir un ministère régalien. Ministre de l'Intérieur et de la Décoration intérieure, Valérie Damidot, dont la mission principale sera de maroufler les policiers. Emmanuel Macron n'a toujours pas déclaré ce qu'il entendait par là. Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Richard Ferrand. Il se trouve que Martine Aubry a décidé d'occuper le ministère de Bercy et elle s'est autoproclamée ministre de l'Économie. Emmanuel Macron s'est déclaré d'accord avec elle et la laisse en place. Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Cédric Villani, qui avec son look de croque-mort du 19e siècle ne manquera pas de redonner le sourire aux enseignants. Ministre de l'Agriculture, des Fromages, des Forêts et des Vins, Jean-Louis Borloo, un ministre qui prendra à cœur sa mission. Il aurait déclaré « C'est où qu'on installe la buvette ?» Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Énergie nucléaire, Daniel Cohn-Bendit, qui alimentera lui-même le ministère en énergie à coup de retournement de veste. Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Benoît Hamon, qui en profitera pour panser les plaies du Parti Socialiste et l'accompagner dans sa fin de vie. Ministre du Travail, de l'Emploi, du Dialogue Social et de la Simplification du Code du Travail, Laurence Parisot, ancienne directrice du MEDEF, qui s'est dite honorée par cette nomination. Elle a aussi fait part de tout son mépris, de toute sa sympathie envers les organisations syndicales. Ministre de la Fonction Publique. Ah, on m'apprend que ce ministère vient d'être supprimé. Ah non, que la fonction publique vient d'être supprimée. Ministre du Logement, Nadine de Rothschild, qui prévoit déjà un plan massif d'investissement dans la vaisselle et les couverts pour tous les ménages français. Cela fera la différence, je n'en doute pas. Ministre de la Famille, des Droits des Femmes, des Enfants, des Personnes Âgées, du Vivre Ensemble, du Vivre Bien, de la Ville, des Sports, de la Culture et de la Communication, Christine Boutin, qui déjà fait savoir qu'elle comptait rebaptiser ce ministère, ministère de la Religion d'État et de la Morale Publique. Voilà, vous avez le gouvernement français. J'espère qu'il vous plaît. En tout cas, c'est parti pour 5 ans de bonne politique.
Ah oui.
Et tout de suite, bon, voilà, bon, vous avez compris, c'était un peu faux. Hein.
Non, c'est vrai.
Je n'ai pas la prétention
Valérie Damidot, c'est bien de faire appel aux gens de... aux personnes, ouais,
la société civile.
C'est la société civile, c'est la société de la télé, c'est le monde de l'avenir, Marie Lécuyer.
Mais
n'est-ce
oui,
pas
oui, des startups partout.
Des startups. Bref, et maintenant, le moment que vous attendez tous, chers auditeurs. La foule est en délire, la foule nous acclame. Voilà, Rémi et son billet d'humeur pour vous servir.
Dans tous politiques sur Transistor.
Alors Rémi, la question que je me pose depuis tout à l'heure, comment vas-tu ?
Pour la dernière fois cette année, hein, eh ben écoute, ça va très très bien Mathias, mais alors c'est fantastique. Enfin, chers auditeurs, enfin la science avance. avec ce résultat magistralement démontré hier par le président Emmanuel Macron, avec une application dans le foutage de gueule comme on n'en avait plus vu depuis la mort de François Bayrou. Chers auditeurs, c'est officiel, le centre est bien de droite.
Wouh ! Et de gauche à droite, d'avant en arrière et de haut en bas, on s'amuse, c'est la fête. Et de gauche à droite.
Ah, et dire que des générations entières de randonneurs hystériques ont vu dans le prétendu dépassement du clivage gauche-droite une façon nouvelle de marcher tout droit à travers les fourrés pour découvrir avant tout le monde les joies et les délices d'un Eldorado enfin débarrassé des conflits poussiéreux entre ceux qui ont tout et ceux qui demandent leur reste. Dire que ces fanatiques qui n'étaient, dire que ceux de ces fanatiques qui n'étaient pas hypocrites ont su être assez crétins pour gober la chanson et croire que ces deux billes bleues dans les yeux de Manu Macron, que ces deux iris tendus vers les cieux présidentiels qui font frémir toutes les rombières de nos campagnes seraient le Viagra salvateur qui érigerait enfin une classe politique neuve entre une gauche et une droite ramollie et stérile. Mais non, les gars, vous y êtes pas du tout. Enfin, je vous traite pas de con, mais enfin, vous en tenez une couche quand même. Bon, allez, je vous la fais avec une parabole, hein. Il y a un type qui dort dans la rue avec sa famille. Il y en a un autre qui arrive et qui écrase les enfants du premier mec avec sa Jaguar. Bon. Et là, il y a un mec en costume qui se pointe et qui dit « Ah mais non, vous engueulez pas, dépassons ce conflit. On n'a qu'à dire que vous faites moite-moite pour la réparation du pare-choc. » Et puis on n'en parle plus. Bon, et ben ce mec-là, il représente vraiment une nouvelle vision du monde basée sur le respect mutuel de mes deux et le refus du conservatisme ? Non ! C'est un gros connard de droite. Bon, c'est QFD. Bref, cette parenthèse pédagogique nécessaire, adressée à nos amis les prédicateurs du centrisme progressiste qui leur tient lieu de demi-molle, venons-en au fait, et le fait s'appelle Édouard Philippe, écrivain et boxeur de son état, maire du Havre, hein, Nicolas, tu aurais pu te le garder, un homme...
Ben on n'en est pas fiers, Rémi, hein, ça va, ça va.
Un homme qui vote contre, hein, la loi de transition énergétique, en même temps, quand on a été pendant 3 ans directeur des affaires publiques d'Areva, on ne va pas cracher sur la main qui vous offre la thune et le camembert, même si la thune vient d'enfants exploités au Niger et le camembert est fait avec le lait d'une vache à 2 têtes. C'est un homme qui vote contre la loi sur la transparence de la vie publique, qui s'oppose à la loi relative à la fraude fiscale et rejette la loi de lutte contre le système prostitutionnel. Bref, un mec de droite, vous l'aurez compris, la même droite qui prétend changer le monde depuis si longtemps. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. Alors oui, oui, je suis content, Mathias. Oui, évidemment, il était temps que Macron assume le gourdin qu'il lubrifie depuis 1 an. Enfin, vous savez, on se fout de sa gueule parce que sa femme est vieille, mais pas du tout. Enfin, non, mais ou plutôt si, il est aussi vieux qu'elle. Ses idées sont aussi rances que le centre qu'il a prétendu réanimer. Ou pour trouver quelque chose de plus parlant, aussi rances que les couches culottes brodées d'or écrasées dans leur humidité entre l'océan de Valéry Giscard d'Estaing et les fauteuils vénérables du Quai Conti.
Oh là.
C'était Française, Français, vous vouliez du renouveau. Soyez confiants, Macron vous a compris, lui aussi, comme l'autre. Allez, dormez bien. Ouais, ou bien, non, dormez pas, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, que quelque chose est encore possible, que nous allons en avoir marre, enfin, en finir avec les mous de tous les bords qui pèsent sur nos épaules et nous dégoulinent dessus de toute leur nuisance insupportable, que nous allons nous souvenir que nous sommes le peuple, celui des pavés et qui tête qui tombe, et que ce peuple a une voix qu'on ne saurait écraser quand elle s'empourpre de la colère juste, attisée jour après jour par les humiliations du quotidien, peut-être, oui, que nous allons nous souvenir de la souffrance du printemps 2016 et des matraques rougies de Strauss-Kahn et Cahuzac, du Bourget, de Lisbonne, de l'article 49 alinéa 3 de cette constitution de merde et de tout le reste de Sharon, Aziad et Bouna, de Karachi à Pénélope de 68 à 2002. Oui, peut-être l'aube nouvelle d'un progrès social retrouvé s'apprête-t-elle à se lever et peut-être serons-nous ceux qui l'allumeront cette aube et que les brasiers où finiront les bourreaux et les voleurs se feront les feux de joie d'une ère débarrassée des vautours et des matons, des raffarins télévisés des Macron christiques, des valses hémorroïdaux et des abominables philippots. Et puis de tous les satellites, ces petits cons qui croient avoir des idées quand ils n'ont que l'admiration et de l'ambition, et les gros cons qui pensent avec des battes et des rangers. Oui, peut-être, chers auditeurs, nous réveillerons-nous enfin. Hein ? Quoi ? Hein ? On peut pas, c'est les vacances. Ah, bon ben on se voit en septembre du coup.
C'est sur ce
cri de libération que nous nous quittons. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés pendant cette année électorale, aussi nombreux que vous avez pu être. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt pour d'autres aventures radiophoniques. En attendant, restez alertes, tenez-vous informés, car si la politique n'est pas tout, nous sommes tous politiques.
Fais les valises, on rentre à Paris.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
Tonton veille sur vous.
Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions.
Au revoir.